5, 4, 3, 2, 1, t'es top.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance en force.
Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans cette Auberge espagnole du mardi 14 mai 2013, au sommaire de laquelle on parlera tout d'abord sport et argent, les trois plus gros clubs sportifs de Montpellier et l'argent, titre d'une enquête dont la synthèse est en accès libre sur le site de Montpellier Journal. Jacques-Olivier Tessier sera avec nous pour en parler. Puis on parlera de ce qui se passe à la Maison de l'Europe avec Edison Thiesch qui nous donnera les rendez-vous de cette semaine pour la fête de l'Europe 2013, des rendez-vous tournés vers la Croatie. Et puis dans une bonne demi-heure, ce sera Claire, chargée de communication au Jam, qui viendra au micro de Gérard Viol pour un tour sous les paillotes, car tout le mois de mai et même début juin, le Jam propose des concerts et des expos en plein air, enfin les concerts en plein air et puis des concerts à l'intérieur en soirée. Et puis on aura un live avec Mouche de Tell Me Prod, ex Satu Prod, qui viendra pour le concert du 18 qui aura lieu au Macadam avec les groupes Flou Fantôme et la jeune songwriter Jabber Wookie. Ils seront là en chair et en os pour vous donner un avant-goût de votre samedi. Donc, mais pour l'heure, eh bien, c'est avec de la musique. Et quelle musique me demanderez-vous? Car vous posez toujours des bonnes questions, mes bons amis. Eh bien, le temps que ça s'ouvre, c'est The Bamboos. Merci, mon ami Bruno. Le temps que mon truc s'ouvre, eh bien, il ne s'est pas ouvert. Ça y est, The Bamboos qui nous chante Night Sport. The Bamboos, dans cette auberge espagnole qui nous interprète Night Sport. Ils font du sport la nuit, mais il y a aussi du sport le jour et du sport dans cette auberge espagnole. On va en parler. Jacques-Olivier Tessier, bonjour.
Bonjour.
Alors, une enquête dans Montpellier Journal qui a duré plusieurs mois autour du financement des trois plus gros clubs de sport de notre belle ville. Le MHSC, club de foot, le MHRC, club de rugby, et le MAHB, club de handball. Comment tout d'abord, une enquête qui a duré plusieurs mois. Comment t'es venue l'idée d'aller travailler ce terrain-là?
En fait, c'est au printemps dernier où finalement les résultats des clubs sportifs de Montpellier étaient plutôt bons. Tout le monde s'extasiait, y compris dans la presse nationale, sur le miracle sportif montpelliérain. Et je me suis dit, il y a peut-être des raisons à ça. Enfin, il y a sans doute que les Montpelliérains sont particulièrement bons, etc. Mais comme souvent on dit, d'ailleurs, je crois qu'il y a un article encore aujourd'hui dans Libération, il me semble, qui parle du PSG et du fric. On sait très bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui dans le sport, du moins professionnel. Donc je me suis dit, allons voir un petit peu si finalement ces clubs-là, comment sont aidés et à quelle hauteur sont aidés ces clubs-là. Donc j'ai choisi d'en prendre trois, les trois plus gros, les trois plus connus, voilà, pour des raisons de facilité, on va dire.
Alors une enquête qui a démarré quand, donc tout de suite après,
c'était au mois de mai. J'ai commencé à lancer des demandes de documents administratifs, etc. Après, elle s'est un peu interrompue parce qu'en parallèle de ça, Montpellier Journal est passé à l'abonnement. Donc avant, il était en accès libre, donc ça me prenait un peu du temps. Donc du coup, j'ai repris ça, on va dire, à l'automne, et j'ai vraiment commencé à publier. Je ne sais plus le premier article, d'ailleurs, je ne l'ai plus en tête, mais ça devait être en janvier ou février. Et la synthèse, donc, la publication elle-même s'est étalée sur plusieurs mois, parce que après la publication du premier article, j'ai continué à enquêter. Donc la synthèse, donc un peu qui marque un peu le point final, du moins de cette enquête-là, est parue le 24 avril.
Voilà, la synthèse, elle est en accès libre. Elle revient sur sept volets, finalement, de ce travail. Est-ce qu'au fil de cette enquête, au fil de la publication, donc, il y avait des réactions qui infléchissaient le travail de recherche que tu menais ?
Pas vraiment, parce que le gros des réactions, je les avais recueillies avant, parce que je me doutais bien qu'une fois que je commencerais à publier, ça serait un peu plus compliqué après pour que les gens s'expriment, ce qui s'est avéré à peu près exact. Donc voilà, mais ceci dit, j'avais finalement accumulé une matière pour donner un peu, tenter de donner la position de tout le monde. Je voulais revenir aussi sur un point, c'est tout à l'heure tu as parlé des clubs sportifs et de l'argent, c'est bien d'argent public dont il s'agit, hein, parce oui. que évidemment, moi j'ai pas travaillé sur, même si c'est abordé parfois au détour d'une phrase ou autre, mais comment les clubs se financent par ailleurs, avec des partenaires privés, avec par exemple au foot, quelque chose qui est très important, c'est les transferts des joueurs. Voilà, moi il y a aussi les droits télé, évidemment, pour le foot, qui sont colossaux. En particulier là, le MHSC, donc le foot, a touché d'importants droits suite à leur titre de champion de France et à leur participation à la Ligue des Champions. Voilà, moi je me suis intéressé justement à la partie argent public, donc le financement essentiellement des collectivités locales de ces trois clubs.
Alors, en guise d'introduction, il y avait une phrase de Bertrand Delanoë qui disait en novembre dernier, le maintien d'une subvention municipale au PSG n'est ni nécessaire ni opportun dans un contexte de rigueur budgétaire. PSG qui tourne avec 300 millions d'euros, ce qui paraît complètement effarant. Donc tu dis, bon, on est loin de cette situation à Montpellier où le MHSC tourne avec 60, mais quand même, c'est quand même pas 60 000 euros ou 600 000 euros ou 6 millions d'euros, c'est quand même 60 millions d'euros. Donc c'est vrai que bon, ça qu'est-ce qui distingue justement on va dire la situation du PSG et puis la situation à Montpellier?
Finalement ce facteur 5, oui. Essentiellement, et puis voilà, il y a aussi, il faut préciser aussi que les 60 millions, c'était un peu un pic, puisqu'ils sont liés au titre de champion de France. Mm-hmm. Et donc c'est le budget de la saison 2012-2013. Celle d'avant, c'était sans doute la moitié. Donc le budget avec lequel ils ont été champions de France, c'est plutôt 30 millions d'euros. Et celui de l'an prochain, compte tenu des résultats de cette année, sera sans doute aussi sans doute divisé par deux. Donc là, on est même carrément éventuellement dans un facteur 10. Quoi. Mais moi, ce qui m'a un peu frappé, et ce qui visiblement, apparemment, je suis quasiment le seul que ça frappe, c'est de voir que finalement, ce club a vu des dizaines de millions d'euros qu'il a gagné, certes, il n'y a pas de problème là-dessus, mais à Paris, on se pose la question d'arrêter de donner de l'argent public à un club qui est finalement très riche du fait des investisseurs qataris. À Montpellier, le club qui, du jour au lendemain, double son budget, passe à 60 millions d'euros, on continue à l'aider à la même hauteur, quoi, avec des prétextes. Alors, il y a des aides directes et indirectes, on peut en parler, mais voilà, il n'y a pas, visiblement, il n'y a pas eu, je n'ai pas vu de débat pour dire est-ce qu'il faut ne serait-ce que réduire un peu les aides publiques, puisque finalement le club se porte bien. Et voilà, c'est Louis Nicolin qui l'a dit encore il n'y a pas très longtemps à la télé, avec la Ligue des Champions ou à la radio, je ne sais plus, avec la Ligue des Champions, on s'est gavé, c'est le terme qu'il a employé. Il a même fait, il est revenu encore une autre fois là-dessus à la télé en faisant le geste un peu du joueur de roulette au casino qui est en poche et qui dit ouh, la Ligue des Champions. Il a dit aïe, sous-entendu, ça m'a rapporté gros, quoi.
Voilà. Donc voilà, que ce soit le maintien de ces aides ou la nature de ces aides directes ou indirectes qui sont discutables, notamment en termes de redevances, puisque tu soulignes dans la deuxième partie de cette enquête le fait qu'il y a des investissements publics très importants qui sont consentis par les collectivités pour construire les infrastructures. Alors on parlait évidemment des stades de foot, Mausson, Yves du Manoir, pour le rugby, etc. Et puis derrière, même si les clubs, les utilisateurs de ces lieux une redevance, elle reste quand même presque symbolique, c'est ça ?
Oui, oui, parce que donc je donne quelques chiffres. Le stade de la Mausson, alors on ne parle pas de la construction, on parle des travaux qui ont été faits les 20 dernières années, puisque la construction remonte à avant. Les 20 dernières années, les collectivités ont dépensé 70 millions d'euros, donc rien qu'en investissement. Il y a aussi à la charge de la collectivité tout ce qui est frais de fonctionnement. Par exemple, la pelouse, dont on a beaucoup parlé cet hiver, la pelouse, c'est 500 millions d'euros qui ont été dépensés en 2 ans. Voilà. Et quand on regarde la redevance que paye le MHSC pour l'utilisation de ce stade, alors qui certes n'est pas permanente, ça c'est un débat aussi, parce qu'on considère qu'en gros on l'utilise que 20%, alors qu'il y a quasiment qu'eux qui jouent là-bas. Bon, il y a eu un match de rugby il n'y a pas longtemps, mais voilà, il y a un ou deux matchs hors foot et le reste c'est du foot. Et d'ailleurs, quand on voit que la pelouse a du mal à tenir avec rien que quasiment les matchs de foot, on imagine si tous les week-ends il y avait un match de quelle compétition qu'il soit, quoi. Donc, et en parallèle de ça, donc de ces dizaines de millions d'euros d'investissement, de ces centaines de milliers d'euros de frais de fonctionnement, voire plus par an, on a une redevance, j'ai plus le chiffre exact, si voilà, 271 000 euros de redevance. J'ai appris, après l'apparition de ces articles là, tout récemment, que pour le stade Vélodrome, l'OM était à 1,5 million de redevances. Et alors là aussi, il y a des travaux qui ont été faits, bon, avec un montage différent qu'à Montpellier, avec je crois du privé impliqué, tout ça. Mais quand même, le nouveau loyer évoqué, bon, qui a fait apparemment bondir les dirigeants de l'OM, c'est 7,5 millions d'euros par an, donc à rapporter aux 270 000 euros du stade de la Mausson. Alors évidemment, à nouveau, le MHSC, c'est pas l'OM, le Vélodrome, c'est pas le stade de la Mausson. En gros, le Vélodrome, c'est 2 fois plus gros que la Mausson. Mais enfin, voilà, on est aujourd'hui, ça c'est 1,5 million de redevances pour l'OM, avec un stade 2 fois plus grand, donc on pourrait dire 700 000 euros pour le stade de la Mausson. Bon, alors on va me dire, ah oui, mais il est moins rempli et tout et ça, mais enfin, on divise encore par deux, mais on est quand même au-dessus, quoi. Donc,
Alors tout ça a rapproché aussi, on va dire, de la question dans la quatrième partie où tu disais, la question est posée, Mandrou a-t-elle bradé Gramont à Nicolin ? Le domaine 10,7 hectares, 1400 m2 de vestiaire, 4000 m2 de parking, 2300 m2 de locaux, le tout vendu à un prix de 6,5 millions d'euros, à peu près celui préconisé par France Domaine, mais on va dire c'est un minimum. Alors est-ce que finalement, on n'est pas dans une situation où finalement les élus, ils ont toujours quelque part envie de faire plaisir à leur champion, peut-être aussi pour garder, un contact, pour aussi l'image politique qu'ils veulent donner. C'est un peu entre le narcissisme et l'électoralisme.
Alors, il y a la version officielle qui est, voilà, le sport, c'est un formidable vecteur de cohésion sociale, de tout ce qu'on veut, d'exemplarité, tout ça. Bon, on peut en discuter avec l'affaire des Paris, par exemple, les Paris suspects au hand, même si tout ça est toujours en cours au niveau judiciaire, même s'il y en a quand même qui ont reconnu avoir parié contre leur équipe. Oui, bien sûr, la vraie question, c'est ça, c'est... Le sport, c'est un moyen de... On l'a bien vu quand, avec le titre de champion, là, ça a été le paroxysme. On a vu, effectivement, Mandrou, le maire de Montpellier, donc Jean-Pierre Mont, le président de l'Aglo, se pousser un peu du coude pour être sur la photo avec Louis Nicolin et les joueurs, donc ça, lors de la remise du trophée de champion de France sur la Comédie. Il y a aussi être vu au stade donc par les supporters sur les caméras de télé, etc. Faire partie, enfin être aussi dans les loges qui sont payées par les collectivités, on pourra en reparler, avec, on va dire, les notables de la ville officiellement pour favoriser les bonnes relations entre les élus et on va dire, les milieux économiques, par exemple. Mais bon, c'est tout ça... au minimum mérite débat. Il y a d'ailleurs eu du débat pour le coup en conseil municipal, mais bon, ça n'a pas fait plus de bruit que ça. Et effectivement, on sent bien que on peut pas, on peut difficilement s'attaquer à, par exemple, quelqu'un comme Louis Nicolin, qui est très connu, très populaire et assez, je sais pas, quel est, aux 15 000 ou plus supporters de son club.
Alors, on va dire, c'est une envie de plaire et puis d'aider et puis de s'attirer la sympathie du milieu sportif qui va des fois au-delà, on va dire, des règlements, puisque là, notamment, on peut lire que le plafond légal d'achat de prestations fixé par la loi a été dépassé en 2012-2013 de 100 000 euros. Alors, 100 000 euros, ça peut paraître finalement assez peu important, mais c'est peut-être aussi une question de transparence et de respect des règles des règles comptables.
Oui, et puis visiblement ça n'a ému personne. Voilà, c'est 100 000 euros. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations, par exemple à Montpellier, qui aimeraient bien bénéficier de ça. Et puis en plus là, il s'agit même plus de choix politiques. On dit on met plus là et moins là. Non, il s'agit de respecter la loi. Ils ont dépassé la loi de 100 000 euros. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai montré. Et il n'y a eu aucune réaction des collectivités concernées, de la préfecture qui est censée aussi contrôler la légalité des décisions qui sont prises. Voilà, et des opposants ou autres. Je suis sidéré dans cette ville de l'apathie des contribuables, par exemple, ou autres. À Lyon, il y a une association qui attaque quasiment toutes les décisions, c'est peut-être là exagéré, mais toutes les décisions des collectivités vis-à-vis de l'Olympique Lyonnais. Parce que donc c'est comme ça, justement, qu'eux, ils ont un peu fait jurisprudence. Et justement, ils ont attaqué la délibération de fixation de la redevance du stade Gerland pour l'Olympique Lyonnais, qui était trop basse. Et donc, effectivement, ils ont eu gain de cause à Montpellier. Il n'y a eu aucune réaction. Mais à nouveau, c'est peut-être pareil. Quand on est même dans l'opposition ou, je sais pas, ou dans d'autres milieux, on n'a peut-être pas forcément envie de s'en prendre au sport, voilà, et à des gens puissants. Hein. Louis Nicolin, on sait, c'est quand même quelqu'un de très riche. Moed Altrad pour le rugby aussi. Bon, le hand, c'est un peu différent. Mais bon, c'est pareil. Peut-on s'en prendre à un club et à ses supporters sans risquer de perdre beaucoup de voix, quoi. Sur l'illégalité, il y a aussi quelque chose qui est passé relativement inaperçu. Et là, ce n'est pas moi qui l'ai dit le premier, c'est la Chambre régionale des comptes. C'est quand même pas rien qui dit que le club de handball professionnel a bénéficié gratuitement de la mise à disposition de Bougnol. Moi, selon ce qu'ils payent, donc ce n'est pas selon ce qu'ils devraient payer, c'est selon ce qu'ils payent réellement. C'est un cadeau de 300 000 euros donc sur plusieurs années. Mais enfin voilà, ça aussi, c'est clairement illégal. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale des comptes. Voilà, c'est passé comme une lettre à la poste. Moi, je n'ai pas vu d'article de presse à l'époque pointant ça. C'est en faisant mon enquête que j'ai retrouvé ça. Quoi.
Et dans cette enquête, alors outre le revenu de certains joueurs pris en charge par les collectivités, qui déjà peut poser question, moi, ce qui m'a vraiment surpris finalement, c'est aussi le droit à l'image racheté par la ville de Montpellier pour certains joueurs. Alors jusqu'à présent, il n'y avait que les chaînes de télévision qui allait sortir des millions pour acheter le droit à l'image de tel ou tel people. Est-ce que dans cette société tout communicante, on ne se retrouve pas avec des comportements un peu paradoxaux où une collectivité finalement va acheter le droit à l'image d'un sportif fort cher d'ailleurs. Là aussi, ça pose question d'un mélange des genres peut-être.
La question, enfin moi, ce qui est apparu, c'est quand même, c'est d'ailleurs Jacques Martin, le vice-président de l'agglo en charge des sports, qui me le dit. Hein, il reconnaît quasiment explicitement que le droit à l'image, c'est une façon déguisée d'aider à nouveau le club de rugby. C'est-à-dire qu'on prend en charge 240 000 euros par an pour Fabien Galthié, l'entraîneur. On fait passer ça en droit à l'image. Bon, effectivement, il y a quelques prestations. Alors là, je ne sais pas si c'était prévu ou pas, mais coïncidence, on a vu là tout récemment dans la presse une publicité pour inciter les gens à trier leurs déchets avec donc Fabien Galthié et puis les deux autres joueurs du club de rugby qui sont Trinduc et Bouedraogo qui ont fait de la pub donc là dans le cadre j'imagine de leur contrat de droit à l'image mais quand même 240 000 euros par an pour Galthié et à peu près la moitié chacun pour Trinduc, donc on est en gros sur quelque chose qui représente 500 000 euros par an, rien que pour le rugby, rien que pour ces trois sportifs-là, pour l'agglomération. Et après, évidemment, viennent s'ajouter les autres aides. Donc, enfin... Si on fait le total de toutes ces aides-là, directes et indirectes, on dépasse très très largement, pour ces trois clubs uniquement évidemment, hein, on dépasse très largement à mon avis, les 15 millions d'euros. Mmh.
Jacques-Olivier, une enquête qui, j'imagine, aura peut-être des suites, le temps que les gens se disent « Tiens, bah, je vais aller quand même lire ça ». C'est l'occasion aussi de s'abonner à Montpellier Journal, hein, puisque l'intégralité du dossier, elle, est en partie abonnée, mais la synthèse, elle, est en accès libre.
Ouais. Oui, il y a sûrement une. Il y en a eu une là hier. J'ai fait un petit papier assez rapide juste pour poser des questions parce que là c'était sur le MHB et un joueur serbe qui était arrivé donc en pleine affaire des paris parce que effectivement le MHB manquait de pivot donc parce qu'il y avait l'histoire des paris, il y avait des joueurs qui étaient interdits ou qui allaient quitter le club et donc il manquait de joueurs à ce poste. Ils font venir un Serbe qui s'appelle Uros Viloski. En début novembre, Midi Libre dit qu'il s'entraîne avec le club, qu'il fait même les déplacements à Belgrade. Et officiellement, rien. C'est-à-dire qu'en fait, ils attendent un accord de la Ligue nationale de handball pour le recruter. Et cet accord-là, et c'est le MHB qui le dit lui-même, n'intervient que le 1er février, ou mettons le 31 janvier, comme par hasard, juste après le départ de Karabatic. Donc moi, la question que je pose, c'est... ce mec-là, il faisait quoi pendant les 4 mois? Il était à Montpellier, il vivait de quoi? Qui c'est qui le payait? Voilà, il y a des gens qui disent ah, mais il y a peut-être moyen de s'arranger en attendant d'avoir l'accord de la Ligue nationale de handball. Voilà, et ça pourrait être. J'ai une source qui me dit oh, ben, il y a toujours moyen de s'arranger. Peut-être que c'était l'association qui le payait. Bon, le MHB n'a pas confirmé, mais au minimum, la question se pose. Est-ce que, alors, on peut dire, bon, c'est pas grave, c'est des montages. Mais non, parce que l'association, c'est le sport amateur. Et donc, ça voudrait dire qu'il y aurait eu des transferts d'argent entre la structure amateur et la structure professionnelle, ce qui peut poser un problème. Enfin, en tout cas, au minimum, dans cette affaire, c'est complètement obscur. C'est pour ça que j'ai titré le joueur fantôme, parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois. Quoi. Bon, c'est pas à la hauteur des choses dont on vient de parler, mais quand même, c'est significatif de pratiques qui sont pour le moins peu transparentes, alors que, bah, comme on l'a vu, l'argent public investi là-dedans est important et on pourrait espérer un minimum de transparence.
Le Serbe Uros Viloski, joueur fantôme pendant 3 mois, c'est à la une de Montpellier-journal.fr. Jacques-Olivier Tessier, merci beaucoup d'être venu dans les studios de Divergence. On va se quitter avec bien encore un petit morceau qui parle de sport, ou plutôt non, ce n'est pas du sport, c'est un art martial et c'est Jim O'Rourke. We'll be right back. No Sport Martial Art, c'est Jim O'Rourke sur les ondes de Divergence FM dans cette auberge espagnole où à présent on va parler Europe et nous recevons un des animateurs de la Maison de l'Europe, Edison Thiesch. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, bien, qu'est-ce qui se passe cette semaine et on va dire, il se passe depuis le mois d'avril, diverses choses dans le Gard et dans l'Hérault. Plus près de nous, dans le temps, on peut voir jusqu'au vendredi 24 mai une exposition intitulée « Pour comprendre l'Europe », une exposition qui se trouve à Castelnau-le-Lez. C'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Nous avons donc cette exposition à Castelnau-le-Lez. Mais nous avons aussi beaucoup, nous avons donc des événements sur nos points Europe, que ce soit à Castelnau-le-Lez, que ce soit aussi à Saint-Jean-de-Serre, où nous avons aussi une exposition de peinture, un repas, mais plus particulièrement sur Montpellier, puisque c'est cela qui est aussi intéressant, trois grands moments forts. Notamment, du lundi 13 au vendredi 17 mai, une exposition instantanée de Croatie. Donc la Croatie vue par des photographes français, nous à la Maison des Relations Internationales. Ce 14 mai, nous avons la Croatie aux portes de l'Europe, avec la venue donc de l'ambassadeur de Croatie, Monsieur Ivo Goldstein, qui va donc faire une conférence sur l'entrée de la Croatie en Europe, le 14 mai.
C'est aujourd'hui de 17h30 à 20h30.
Tout à fait.
Pour ceux qui ont la rediffusion, eh bien, il faudra qu'ils se hâtent d'aller à la Maison des Relations Internationales où se déroule ce rendez-vous. La Croatie, donc, qui est à l'honneur, puisqu'elle est, elle est sur le point d'entrer au sein de l'Union européenne, c'est bien ça ?
Tout à fait, qui est à l'honneur ce 14 mai. Ensuite, demain, mercredi 15, nous avons donc la fête des cultures européennes qui se passe sur deux jours, donc mercredi 15 à la Maison des Relations Internationales. Nous avons un certain nombre d'événements organisés avec les associations européennes que l'on remercie pour leur investissement, qui proposent donc des danses, des balades, de la poésie, des animations. Mercredi 15 à la Maison des Relations Internationales. Et surtout le samedi 18 mai à la salle Pétrarque où nous avons donc des expositions, de la danse, des concerts et un certain nombre d'événements proposés par la Maison de l'Europe et toutes ses associations.
Entre autres aussi, il y aura pour ceux qui sont au centre-ville, il y aura à la maison de Heidelberg, il y aura des animations durant toute la journée aussi autour des 50 ans du traité de l'Elysée. Ce sera donc le 18 de 14 à 17h. Il y aura aussi la diffusion d'un film et un débat par l'association Club Franco-Polonais Solidarnosc sur l'histoire du mouvement du même nom en Pologne. Ce sera de 10h15 à midi à la maison des relations internationales aussi. Des animations, une visite du Collège des Écossais par l'association France-Écosse, quartier des Quatre Seigneurs à Montpellier, pour ceux qui ignoraient qu'il y avait un Collège des Écossais, parce qu'on ne le sait pas forcément. Et puis samedi aussi, un concert par la chorale de Boves-Quegno en Italie, ce sera à l'église Saint-Jacques, ce sera à Moggio, donc finalement des rendez-vous qui ne sont pas que à Montpellier. Samedi 18 mai aussi, sur les traces de Jacques Ier d'Aragon, ça se passera, ce sera une visite, une balade découverte dans Montpellier sur les traces de ce personnage qui a marqué l'histoire de la ville de 9h30 à 10h30. Beaucoup de rendez-vous qu'on peut retrouver sur le site europelr.eu.
Oui, tout à fait, sur le site de la Maison de l'Europe, Europe Direct à Montpellier. Vous pouvez venir nombreux et nombreux. Nous vous invitons à célébrer l'Europe. Et à venir dans la convivialité, donc partager des moments qui sont toujours très intéressants.
Et puis pour terminer, le 29 mai, ce sera la journée des langues, langues et citoyenneté européenne. Toute la journée, des stands d'information, une exposition, atelier pour faire la promotion de la diversité linguistique de la citoyenneté européenne. Ça se passera au CRDP à Montpellier. Je crois que nous avons à peu près fait le tour des festivités.
Oui, oui, en région, nous avons beaucoup de festivités, beaucoup d'animations et surtout beaucoup de personnes qui se mobilisent, beaucoup d'associations qui travaillent avec nous et que l'on remercie aussi pour leur investissement, pour fêter l'Europe. Voilà, c'est quelque chose de très bien.
Comme il se doit, Edison Thiège, merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir. Je rappelle qu'on peut retrouver toutes ces infos sur www.europelr.eu et on part avec le No Smoking Orchestra qui nous interprète, Europe.
Ciao ralenceri mascotem, kai trailo David Beckham nevo detergent. Benvenuti ciao ralenceri mascotem, cote otem budbach talo sardo per reclame. Naestuce Europa, sanse democrati. Naestuce pure dai a Palo Fox da MTV. O amal signor Lorenzo, sciucar sa starno. Sastarella, pungro, ciro, ciace, mai si go. Ratto buco, vodra, barda, Mr. Sean Penn. Interview i TV Rai, Sky, Tai, CNN. Naestuce Europa, sanse democrati. Naestuce pure dai a Palo Fox da MTV.
Buongiorno amici miei, buongiorno Ahmed. Come stai signore? Con 24.000 baci per te. Buongiorno amici miei, buongiorno Ahmed. Come stai signore? Con 24.000 baci per te.
Lorenzo,
Lorenzo,
la donna graziosa. Lorenzo,
Lorenzo,
accella ogni cosa. Lorenzo, per niente costosa. Lorenzo, si divide la spezza.
Avandre sciucarie, avandre giubbarie. Avandre bidaracco, avandre tedar slatto. Avandre sciucarie, avandre giubbarie. Avandre mia ballerina, me la fina dell'amore. Schiamo son de vezzi tuoi. Con un letto, un letto,
partenariat avec Divergence FM, du 16 mai au 7 juin 2013, le Jam ouvre pour la première fois sa paille haute. La salle de concert dédiée au jazz et aux musiques du monde propose un concept unique avec 3 concerts tous les jeudis et vendredis soirs à partir de 19h. Vous y retrouverez des plateaux de qualité avec des artistes régionaux et des expositions accompagnées de dégustations de vin. Du 16 mai au 7 juin 2013, le Jam ouvre sa paille haute. Plus d'infos sur www.lejam.com.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et oui, paille haute, paille haute. Et j'ai la grande chance d'avoir, non pas en face, mais à côté de moi, Claire, responsable de la communication du JAM. Claire, bonjour.
Et bonjour Gérard.
Grand événement.
Eh oui, grand événement pour la première fois, ouais.
Doit-on dire évolution, révolution ou innovation?
Je pense que les trois sont adéquates hein, quand même, parce que effectivement l'évolution du jam avec une nouvelle équipe, révolution parce que c'est la première fois qu'on fait ça, qu'on fait donc cette pie hot, et c'est un concept, hein, donc c'est une nouvelle idée d'Adrien Pfeffer qui a malheureusement pas pu venir aujourd'hui parce qu'il justement il est dans l'organisation de cet événement. Donc le concept deux soirs par semaine à partir de ce jeudi-là, le 16 mai. Et l'entrée gratuite avec beaucoup de surprises à venir, des trois concerts par soir, des dégustations, des expositions d'artistes. Donc plein de bonnes choses pour nous retrouver tous ensemble.
Il y a aussi, je pense, l'événement, c'est que dorénavant, dès 19h, on pourra venir au JAM, non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur.
Exactement. Donc, ça serait un genre de after work à l'extérieur, donc dans la cour. Et paillotte. Donc, il nous manque juste la mer, mais c'est pas grave. On va la faire venir à nous, je pense.
le laisse n'est pas très loin. Hein.
Voilà, c'est ça.
Mais on va quand même rappeler l'adresse quand même du JAM, parce que bien sûr, tous les gens connaissent le JAM. Mais malgré tout, peut-être qu'il rappelle l'adresse et les commodités d'accès qui sont maintenant plus facile que précédemment.
Eh bien oui, bien sûr, puisque nous avons dorénavant le tramway, la ligne 4, donc, qui passe juste à côté, qui s'arrête à l'arrêt Saint-Martin. Donc si vous venez de la gare, vous prenez direction Albert 1er. Et c'est à 2-3 stations de la gare, donc à 5 minutes, vous y êtes. Et donc une fois que vous descendez du tramway, vous vous dirigez vers la résidence. Il y a un panneau indicateur JAM. Et c'est au 100 rue Ferdinand de Lesseps, à Montpellier, donc.
Mais alors tu disais entrée libre, ça aussi, à part les concerts du jeudi, c'est quand même une innovation là.
Oui, tout à fait, c'est même un risque hein, que prend le JAM, enfin un risque, c'est-à-dire un parti pris quoi, on va dire qu'il sponsorise la scène locale, régionale avant tout. Donc il y a pas mal d'élèves et des professeurs du JAM, mais pas que. Il y a aussi pas mal de groupes qui tournent aux alentours. Et donc oui, c'est une innovation, mais c'est aussi pour justement inciter des gens à venir découvrir le JAM sous un autre aspect, parce qu'on pense tout de suite au jazz quand on dit le JAM, parce que c'est vrai que ça fait 30 ans qu'on promoit cette musique. Maintenant, cette année, et depuis 2 ans maintenant, on essaye de l'ouvrir de plus en plus aux musiques actuelles. Donc, c'est un terme assez large, hein, musiques actuelles, mais on y retrouve du funk, de la soul, du blues, des musiques du monde, parfois même du jazz rock électro avec Guillaume Perret qu'on a eu cette année, c'était génial. Voilà, donc du coup, c'est une manière de montrer aux gens un peu que le JAM s'ouvre aussi et que c'est un lieu très convivial qui mérite d'être un peu plus connu et fréquenté.
Alors pour les fréquentations, eh bien, il faut aussi savoir eh bien, que Divergence est également partenaire et que donc pour la journée d'ouverture, c'est-à-dire eh bien, dès jeudi, nous serons présents, nous aussi, de manière à pouvoir faire du micro-trottoir, appelons-le ainsi, avec interview bien sûr des responsables du JAM, certainement également de toi, à nouveau, et puis bien entendu des musiciens présents qui seront pour l'ouverture, le comptoir des fous.
Oui, tout à fait, ouais.
Dans musique festive par excellence.
Ah, complètement.
De manière à donner une ambiance dès le départ.
Voilà, là c'est pour le vernissage, enfin pour l'inauguration de la paillotte, on a fait une spéciale dédicace au comptoir des fous qui seront en fanfare à l'extérieur et qui passeront ensuite dans la salle, donc à 21h. Et c'est le seul soir où on garde un seul groupe, parce que le reste après, donc il y aura trois groupes différents qui se succéderont à l'extérieur puis à l'intérieur.
Mais conjointement à cela, il y aura donc aussi une dégustation de vin. Une restauration
sommaire,
agrémentée de tapas peut-être par la suite. Si vous n'avez pas la chance d'arriver parmi les premiers et s'il n'y a plus rien en cuisine, vous aurez des tapas avec le vin d'un producteur local. Et également exposition.
Voilà, exposition d'artistes différents pour chaque week-end, enfin pour chaque semaine puisque c'est jeudi, vendredi. Et on commence donc le jeudi avec Clément Pfeffer, qui est aussi le graphiste du JAM. Donc vous retrouverez aussi un peu cet univers des animaux qu'il aime bien et qui sont très représentatifs de la communication du JAM. Qui est un artiste peintre, musicien aussi à ses heures perdues. Après, ça suit beaucoup, mais on mêle chaque semaine, c'est différent. Donc on va aussi accueillir des photographes, qui est Xavier Malafosse. reporter journaliste. Et puis une petite surprise pour la fin, début juin, là, pour la fin de la paillote, dont j'aimerais aussi parler, si tu me le permets, Gérard.
Je vous permets tout, cher ami.
C'est nos deux artistes préférés qui sont très en vogue actuellement, les deux artistes urbains, qui sont Al Sticking et Salamèche. Et donc, je vais vous parler justement d'un projet que nous avons avec eux. Donc, ils seront là le 6 et le 7 juin à la paillote du Jam pour présenter leurs œuvres et aussi vous parler de ce nouveau projet qu'on a en commun avec le Jam, c'est-à-dire de leur confier notre façade extérieure à redécorer.
Claire, non, je ne suis pas content parce que tu nous copies, parce que c'est Salamèche qui a fait la façade de Divergence.
Ah, mais écoute, c'est les grands esprits qui se rencontrent alors.
Merci, tu t'es bien rattrapé, c'est très sympa. On parlait donc, tu disais, la plupart, quels sont les points forts de cette programmation pendant le nombre de semaines où ça va se dérouler ?
Eh bien, en fait, les points forts, bah déjà, donc, tu l'as dit tout à l'heure, le comptoir des fous. Le lendemain, on a aussi une bonne soirée funk. Donc ça, je vous invite tous à venir parce que ça va dépoter grave. Après, on a aussi des artistes plus connus de la scène montpelliéraine comme Airy Jazz, qui est un groupe de reggae, ou Tana and the Pocket Philharmonic, qui sont voilà, des groupes qui passent souvent. Et on a aussi les Fêlés du Vocal, qui est complètement fou comme projet, a cappella, qui est incroyablement drôle. Et puis voilà, on a des Bodies and Soul, qui est un groupe du Jam, récemment créé. Donc on essaye de varier vraiment tous les mélanges pour montrer un peu justement la diversité, quoi. Donc ça va du reggae à la soul, au même ukulélé, n'est-ce pas ? Donc ça sera une petite surprise aussi sympathique, au rock. Enfin bref, il y a vraiment de quoi faire, quoi.
Et puis pour finir en apothéose, le groupe Kiss of Paris.
Kiss from Paris, yes. Hein, c'est une petite surprise.
C'est une petite surprise. Oh, on peut le dire. Ça ne te gêne pas si je le dis.
Non, non, bien sûr que non.
Alors tout simplement, eh bien, si vous allez. Donc, tu me rappelles la date ?
Le 7 juin. C'est la clôture, en fait.
Pour le jour de clôture, voilà. Eh bien, sachez que vous aurez dans Kiss from Paris et bien la chanteuse, qui est tout simplement Claire.
Voilà,
donc vous pourrez mettre un visage sur la voix. Il me reste vraiment, Claire, à te remercier. Et puis on se retrouve donc dès jeudi au Jam pour ces soirées exceptionnelles. Donc du rappel des dates.
Eh bien du 16 mai au 7 juin, tous les jeudis soirs et vendredis soirs à partir de 19h au Jam 100 rue Ferdinand de Lesseps. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la programmation sur le jam.com ou la page Facebook le Jam. Voilà.
Eh bien Claire, merci et donc.
Merci à toi.
Jean. À jeudi.
À jeudi.
Par une nuit de pleine lune, j'ai appris mon infortune, car ma femme m'a avoué sa terrible vérité. Elle n'en pouvait plus de garder son secret. J'avais épousé une sorcière, voilà 20 ans que ça durait. Si elle portait des robes noires ou des chapeaux pointus, alors oui, peut-être, je m'en serais aperçu. Mais le diable s'habille en Prada et ma sorcière bien-aimée n'a rien à lui envier sur ses tenues de soirée. Ma femme est une sorcière qui n'a jamais cru aux chimères. Pas sorcier, ma belle famille me parlait pas, on me tenait à l'écart. Aujourd'hui je comprends pourquoi ma femme me rassurait, mais je pensais malgré moi qu'on n'était pas du même milieu. J'étais pas assez bien pour eux, car ces gens-là, voyez-vous, mélangeaient pas du tout. Ma femme était sortie du rang, certains étaient mécontents. Je suis pas calé en sortie.
Ma femme est une sorcière, ce sera donc la première des tours de paillote du Jam. Pour plus près de nous, plus loin de nous dans le temps, ce sera ce samedi sur la scène du Macadam Pub que vous pourrez voir Flou Fantôme et Jabberwocky. Ils sont tous avec nous, tous et toutes, devrais-je dire, puisque Flou Fantôme, c'est Charlotte et Sébastien. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, il faut parler très près des micros, hein, sinon les gens ne vont pas bien vous entendre. Et s'ils ne vous entendent pas bien, après ils râlent, ils nous téléphonent, c'est l'enfer. Et puis Jabberwocky qui est avec nous aussi, bonjour.
Bonjour.
Et tandis que je cherche le bouton de volume de mon casque, eh bien nous allons leur demander, voilà ça va mieux, nous allons leur demander deux mots sur Flou Fantôme, une formation dont la création remonte à quand ?
Alors, on s'est rencontrés il y a un an et demi à peu près, deux ans, et puis ça s'est on va dire accéléré un tout petit peu à partir d'octobre de la rentrée dernière. Quoi.
Ici à Montpellier ?
À Montpellier.
Oui, oui.
À Montpellier, c'était où, quand, quel temps faisait-il ?
Alors, il faisait beau, je pense, ce jour-là, quand on s'est croisés. On s'est croisés sur une base de... comment dire ? Moi, j'avais des morceaux fait un peu de mon côté. J'ai cherché quelqu'un pour les monter. Avec Charlotte, on s'est rencontrés sur cette base-là. Et puis depuis, en fin de compte, on a créé Flou Fantôme sur des morceaux communs.
Voilà. Sur des morceaux communs, donc des mélanges de choses que vous aviez déjà écrites chacun de votre côté ou c'est des choses nouvelles qui sont nées de la rencontre ?
Alors pour les le début, deux, ouais. C'est soit des choses qu'on a faites chacun ou l'autre intervenu dessus et puis après là on commence à faire des choses vraiment à tous les deux au fil de au
donc
fil
toi
du
Sébastien,
temps.
Guitare et chant et Charlotte, un magnifique clavier, un Casio SK8 pour faire un peu de pub, qui est ton instrument fétiche ?
Non. Enfin oui et non, j'en ai plusieurs en fait. Donc je vais avoir plusieurs claviers sur scène, j'ai un micro Korg, j'ai un Juno et j'ai ce petit Casio mais qu'on...
Ce petit Casio en fait il y a une histoire, voilà. c'est un synthé que j'ai eu quand j'avais 8 ans.
Voilà, j'allais te poser la question.
Donc il y a une valeur affective en plus.
Combien de temps le traînes-tu avec toi ? Et qu'est-ce qui vous inspire dans l'écriture ? C'est quoi, c'est votre histoire personnelle, c'est la vie du monde ?
C'est... Oui, c'est la, en fait, c'est la voix des choses vécues, mais après qui sont un petit peu réécrites sous forme fictionnelle, on va dire. Donc on s'inspire de ce qu'on vit et puis on écrit un peu sur ces choses-là.
Voilà. Et combien de titres actuellement ? Je sais que vous avez sorti un premier EP.
Ouais, qu'on a sorti donc au mois de février là pour on s'est speedé de faire ça pour le festival 100%. Donc on a essayé de choisir, enfin de faire assez rapidement quatre premiers morceaux. Voilà, donc le EP sera en vente sur les trois dates. Donc parce qu'il y a la date au Macadam donc le 18. Mm-hmm. On jouera également le 21, le mardi 21 au Macadam avec Coco Business Plan et Alon Beausoleil.
Et le 22 à Paloma.
Voilà. Et le 22, on a la chance de pouvoir jouer au festival première édition du festival. Festival This Is Not a Love Song. Mmh. Voilà.
Donc plutôt un super début d'année, 100%, deux dates à Montpellier et puis ce gros festival This Is Not a Love Song.
Ça s'est enchaîné très très vite, on est super content de pouvoir faire tout ça et maintenant il faut...
Et Charlotte, ça l'a fait rire ?
Oui, 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 je trouve ça chouette.
Ah bah voilà, c'est chouette. Et vous êtes venu avec vos instruments et vous allez nous jouer un petit morceau, peut-être vous nous le présentez avant ou après ?
On va faire après.
Après. Alors nous allons installer nos joyeux musiciens pour qu'ils puissent vous interpréter leur musique.
If you come to talk to me, well, you know you will have nothing in return. And if you come to talk to me, well, you know you will have nothing in return. You have nothing in return. Really nothing in return. And if you come to talk to me, where you know you will have nothing in return. And if you come to talk to me, where you know you will have nothing in return. And if you come with excuses, where you know you will have nothing in return. And if we walk side by side, where you know you will have nothing in return. You have nothing in return now, really nothing in return.
Fantôme, Charlotte et Sébastien en direct dans les studios de Divergence. Merci pour ce petit live. Ils seront en concert ce samedi sur la scène du Macadam Pub à Montpellier, 1 rue des Deux Ponts, derrière la gare. Tout qui ne connaît pas l'adresse du Macadam Pub, franchement, ils seront en concert avec Jabberwocky qui est avec nous et qui va aussi pouvoir nous interpréter. Alors juste un mot sur ce titre. C'est une chanson en fait qui est là pour blinder les gens contre la désillusion, c'est ça?
Exactement, en fait.
Parce que vous n'aurez rien en retour, quoi qu'il arrive, vous n'aurez rien en retour.
C'est ça, c'est une chanson où c'est répété maintes et maintes fois la même phrase, en fin de compte, qui dit qu'effectivement, c'est un petit peu les après-séparations, en fait, on essaye toujours un peu de surcoller ou je ne sais quoi, ça ne fonctionne absolument jamais, donc là, au moins, c'est un petit peu plus radical.
Donc, ce n'est pas forcément à prendre au sens universel, genre, quoi que vous fassiez, de toute façon, il ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose en retour, vous n'aurez rien en retour.
Non. Ça peut être vu comme ça.
Ça peut être vu comme ça. Alors, peut-être qu'un trait commun entre Jabberwocky et vous, c'est on lit ça dans la presse, hein, surtout que Jabberwocky a été assez bien remarqué par les Inrocks notamment. On parle évidemment de mélancolie, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui, à votre sens, caractérise votre musique, ou est-ce que c'est, on va dire, c'est juste à la surface, et puis souvent les gens se contentent de voir ce qu'il y a à la surface. Parce que quand on écoute votre musique, il y a aussi des instants lumineux, c'est pas forcément mélancolique, genre.
Oui, je pense que c'est un petit peu sur le contraste entre les deux, justement. Et puis, c'est aussi comme ça que se passe un peu la vie, quoi. C'est qu'il y a parfois des moments qui plombent un peu, d'autres moments où on vit plus de choses et on est plus animé. Et je pense que dans la musique, ça se reflète de la même manière, en fait.
Jabberwocky ?
Bonjour.
Bonjour.
Par rapport à la mélancolie, ouais. Alors pour le coup, moi, c'est vraiment une part assez présente dans ma musique et dans ma vie en général. À un moment donné, j'ai accepté que ça faisait partie de mon existence. Uh-huh. Je suis quelqu'un d'assez mélancolique de manière générale. Et je trouvais ça intéressant de le livrer dans ma musique, dans la mesure où ce que je fais, c'est vraiment... je montre ce que je suis, je montre mon univers, et comme c'est une part intégrante, bah forcément, ça se ressent. Mm-hmm. Bon, après, c'est vrai que la vie est pleine de nuances, et c'est pas que ça, quoi. C'est aussi des moments, effectivement, lumineux, et je pense que c'est un petit peu visité par plein d'émotions différentes, quoi.
Mmh. Alors, ouais. Toi, ta petite histoire de songwriter, elle démarre quand ?
Fin 2010, début 2011, j'ai eu un groupe il y a longtemps. J'ai arrêté la musique pendant un temps parce que j'avais un peu besoin de faire la pause. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à réécrire dans quelque chose de beaucoup plus folk qu'avant. Parce qu'avant, j'étais dans le post-rock, donc vraiment plus énervée. Mais on digère ça et on avance. Et puis j'ai commencé à écrire mes chansons comme ça, dans mon coin, à essayer de vraiment d'essayer de me trouver au niveau identitaire et au niveau musical. Et puis en fait, j'ai un ami à qui j'ai fait écouter les morceaux, qui m'a dit bah écoute, c'est très très bien, tu joues dans 3 mois dans ma salle, t'as pas le choix. Et puis depuis, tout s'accélère, quoi, les concerts, l'EP, les chroniques, etc., etc. Et puis je prends ça comme ça vient, et je l'emmène en voyage, quoi, on va dire. Et puis c'est une belle histoire, ouais.
Alors donc tu seras, comme je le disais, au Macadam ce samedi.
Ouais.
Et puis il y a des dates aussi qui vont t'emmener un petit peu partout.
Ouais, je vais à Berlin, donc juste après. Donc là, la date avec Flou Fantôme, c'est la dernière à Montpellier avant la fête de la musique. Entre temps, je vais à Berlin, je vais faire 2 dates là-bas. Je vais également refaire une date à Paris, parce que je reviens d'une petite tournée que j'ai faite sur tout le nord de la France, dont Paris, et ça s'est hyper bien passé. Donc du coup, j'y retourne en août pour jouer à l'international, pour une soirée Agora Frog et le Move. Et puis à la rentrée, on continue. Il y a le 34 Tours aussi, donc dispositif de la région où j'ai été sélectionnée donc, pour le faire. Et puis, peut-être réfléchir à un album sur l'année prochaine, comme ça.
Eh bien, c'est tout le mal que l'on peut te souhaiter. Alors, nous avons explosé le temps qui nous était imparti, mais tant pis, nous jouerons des ciseaux et de la colle plus tard. Nonobstant, il va falloir quand même nous quitter. Donc, on précise que ce sera la seule occasion de voir Jabberwocky avant un certain temps.
Oui.
Sauf si vous êtes à Berlin, un petit peu plus tard, notamment le 24, au 1 Molkenmarkt à Berlin, dans le milieu de Berlin.
C'est un festival.
Ou encore au Loophole le 29.
Ouais, tout à fait, tout à fait.
On retrouve tout ça sur jabberwockymusic.com, jabberwockymusic.com, vous l'aurez compris. Et puis pour Flou Fantôme, il y a le bandcamp.com, flou-fantôme-bandcamp.com. Et on va donc se quitter avec un morceau. Je vais te conseiller de t'installer à la place de nos amis pour qu'on ait plus de place avec les micros, les perchettes et tout le bazar. Et puis, et par contre, là, tu vas être obligé de nous présenter ce titre avant de le démarrer, puisqu'on va écouter ce morceau de musique pour se quitter. Oui, vas-y.
Ok, donc la chanson s'appelle Injuries. C'est une chanson que j'ai
Injuries
écrit.
Comme blessure.
Exactement, okay. Comme blessure. Et c'est une chanson qui parle des gens qui se perdent un peu dans à combattre leurs démons et qui disparaissent des fois. Turn back.
that fair again. I will wait until next round. You're a ghost, my friend. You're a ghost, my friend. You're a ghost, my friend. All this rage and all these fights, you've lost yourself, and now you come. Sarah.